autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur les phénomènes les plus spectaculaires de l'univers, du Big Bang primordial aux explosions stellaires en passant par quelques trous noirs. Comment nous, humains, poussière d'étoiles, pour reprendre la belle expression d'Hubert Reeves, avons-nous depuis les origines tenté de penser ce sidérant cosmos? Où en sommes-nous dans cette quête astronomique, à l'heure des satellites et des télescopes géants, alors que les fenêtres d'observation dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit ne cesse de s'ouvrir vertigineusement? Nous vous proposons un arrêt sur l'image de notre univers ici et maintenant, sur ce que nous en savons ou pas, sur ce que nous spéculons et sur ce qui continue et continuera sans doute longtemps de nous interroger, avec nos invités, l'astrophysicien Jean-Philippe Usan, auteur de Big Bang aux éditions Flammarion, et le physicien Marco Zito qui publie Supernova, le dernier éclat de l'étoile disparue aux éditions Belin, autour de la question: comment comprendre les phénomènes les plus spectaculaires de l'univers? Bienvenue sous les étoiles, exactement. Bonjour Marco Zito.
Bonjour.
Bonjour Jean-Philippe Usan.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous pour faire passer vos recherches et vos interrogations, votre émerveillement aussi devant ce vertigineux cosmos que vous étudiez dans l'infiniment grand, Jean-Philippe Usan. Vous êtes cosmologiste, physicien théoricien, spécialiste de cosmologie et de gravitation, directeur de recherche au CNRS, à l'Institut d'astrophysique de Paris, auteur de nombreux ouvrages. Vous aimez bien partager votre science, Jean-Philippe, ici comme ailleurs, notamment sur le continent africain. Vous êtes très engagé dans le réseau des instituts Ames. Vous venez de publier aux éditions Flammarion un essai intitulé « Big Bang » et sous-titré « Comprendre l'univers depuis ici et maintenant ». Nous avons d'ailleurs, amis auditeurs, un exemplaire à vous faire gagner. C'est important, c'est peut-être urgent pour vous, Jean-Philippe, de faire le point sur cette théorie de l'univers, cette Big Bang théorie, objet de beaucoup de fantasmes et d'approximations.
Alors, Big Bang, c'est un mot qui est extraordinaire parce que tout le monde connaît le mot. C'est un peu comme E égale MC2, c'est un peu ces icônes de la science. Tout le monde connaît le mot, on a l'impression que ce mot renferme de nombreux secrets. Et puis d'un autre côté, c'est une théorie scientifique avec une structure qui s'est construite dans le temps, qui explique un certain nombre de phénomènes, mais qui, comme toute théorie scientifique, n'explique pas tout. Elle a des limites dans ce qu'elle est capable d'expliquer. Et il est vrai que moi, ça fait cette année 20 ans que j'ai soutenu ma thèse, j'avais un petit peu eu cette nécessité de faire un bilan sur finalement qu'est-ce que j'ai vu en 20 ans. Et puis la cosmologie scientifique telle qu'on la pratique aujourd'hui n'existe que depuis un siècle, depuis le premier article en février 1917 d'Albert Einstein suite à sa relativité générale où il fait le premier modèle d'univers. Donc on a un élan qui est parti de la relativité générale mais qui a incorporé toutes les connaissances que l'on a eues de la physique nucléaire, la mécanique quantique, l'électromagnétisme, pour à chaque fois se raffiner. Et donc j'ai voulu faire aussi comprendre aux gens qu'une théorie se construit dans le temps, par étapes, que si on va dans un laboratoire et qu'on demande à un physicien c'est quoi le Big Bang, ben, si vous tombez sur quelqu'un qui est plus observateur ou plus théoricien, il va peut-être vous donner des réponses un petit peu différentes, parce que chacun finalement incarne cette théorie scientifique de façon différente. Donc voilà, je voulais un peu parler de l'histoire pour fêter les un siècle de cosmologie scientifique, et puis de se dire parmi les questions que la science pose, il y en a certaines qui sont en résonance avec des grandes questions métaphysiques qui ont toujours existé. Les hommes n'ont pas attendu la relativité générale pour faire de la cosmologie, pour regarder le ciel et se poser la question de leur position dans l'univers. Et surtout, je voulais défendre l'idée qu'on ne doit pas raconter l'histoire de l'univers comme une histoire. Et c'est pour ça que j'ai dit comprendre l'univers depuis ici et maintenant, parce que notre métier à nous, eh bien, nous sommes sur Terre, nous observons l'univers, nous recevons de la lumière, nous recevons des neutrinos, nous ramassons quelques météorites. Et à partir de ces fragments du ciel qui nous parviennent sur Terre, on essaye de reconstruire, de comprendre la géographie, l'histoire de notre univers. Et cette reconstruction, elle est...
C'est pas une histoire figée, c'est une construction au fur et à mesure.
Voilà, c'est une reconstruction. Et plus on va remonter dans le passé, moins on va avoir d'informations, plus nos théories de la nature vont être extrapolées. Et donc, il faut aussi, avec la reconstruction que l'on fait, avec l'histoire que l'on va donner à nos concitoyens, être capable de leur faire sentir le degré de crédibilité, de se dire que c'est pas parce que ça va changer à un moment qu'on va changer une explication que tout s'effondre. C'est l'étape naturelle de la science. On a des explications qui sont temporaires, que l'on affine, que l'on étend, et que cette dynamique-là, c'est ça aussi qui fait l'intérêt de la recherche.
Comment penser, donc repenser l'univers? Là, on était dans l'infiniment grand, on va arriver dans l'infiniment petit avec vous, Marco Zito. Alors vous, vous êtes physicien à l'Institut de Recherche sur les Lois Fondamentales de l'Univers, le CIRFU, au CEA. Après nous avoir entraîné dans le tourbillon des particules, c'était votre précédent essai, vous avez eu envie, Marco, de nous faire partager un des phénomènes les plus fascinants et les plus spectaculaires, les plus énergétiques aussi, de l'univers, l'explosion d'une supernova. Votre essai, à paraître en novembre chez Belin, s'intitule « Supernova, le dernier éclat de l'étoile disparue ». Alors ces supernovas, ces cataclysmes stellaires, ils ont toujours fasciné les hommes, qui les ont observés il y a longtemps déjà.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a retrouvé des traces donc, d'observations, d'explosions très très donc, anciennes donc, qui en fait ont été observées par les astronomes chinois donc, et ça au début de notre ère, donc il y a presque 2000 ans, les premières. Donc bien sûr les archives sont incomplètes, mais à partir du Moyen-Âge on commence à avoir plusieurs sources concordantes, et donc ce qui nous donne en fait des points, des comparaisons très important, parce qu'on a pu regarder dans la même région du ciel qui avait été indiquée par les astronomes chinois, on a retrouvé ce qu'on appelle un rémanent des supernovas. C'est des objets absolument fascinants, il faudrait pouvoir voir une image de ce que c'est. C'est une espèce de bulle gigantesque de gaz qui est en train de chauffer à des millions de degrés, qui émet dans les rayons X, mais qui émet aussi à d'autres longueurs d'onde, en particulier dans les visibles. En particulier, cette rémanent des supernova a été observé au XVIIIe siècle en France par l'astronome Charles Messier, qui lui a donc donné le nom M1, donc qui voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez important.
Et cette archive, enfin ces phénomènes complètement cataclysmiques observés par les hommes, ça nous renseigne, ça vous renseigne, les astrophysiciens d'aujourd'hui, enfin les physiciens des particules apprennent quelque chose de ces observations?
Oui, absolument, parce que en fait, pour comprendre ce type de phénomène, il faut allier en fait des domaines de recherche très très éloignés. Donc, il faut justement allier la relativité générale, la physique nucléaire, la physique des particules et en fait la dynamique des fluides. Et tout ça, donc, dans des équations extrêmement complexes qu'on a du mal à maîtriser, mais qu'on arrive à mettre dans des grands ordinateurs pour faire des simulations qui commencent à nous donner des informations assez détaillées, mais peut-être pas jusqu'au bout. Donc peut-être qu'il y a encore quelque chose qu'on n'a pas encore compris.
Ces supernovas observées depuis des millénaires dans le ciel, autour de la question comment comprendre les phénomènes les plus spectaculaires de l'univers, on va commencer par remonter aux origines, mais sans trop se prendre au sérieux, avec l'humoriste, acteur et auteur Alexandre Astier, extrait de son exoconférence.
La vérité, c'est que les 380 000 premières années de notre univers ne sont pas observables. Voilà, parce que pendant cette période, la matière et le rayonnement sont confondus en une espèce de bouillasse à très haute température. La lumière ne passe pas. Voilà, on voit rien. Alors, qu'est-ce qui nous reste? L'expérimentation, la déduction, la spéculation. Et moi, je vais vous dire, à mon avis, certaines de ces spéculations sont largement aussi spectaculaires qu'une explosion. Par exemple, la taille actuelle de notre univers est si inconcevablement grande que nous n'avons pas les moyens de la connaître. Sa densité ne dépasse pas quelques atomes de matière par mètre cube, et sa température est de 271 degrés en dessous de zéro. Mais, à un instant de son existence, ce même univers et toute sa matière a été grand comme ça. À cet instant, il était âgé d'un millième de milliardième de milliardième de nanoseconde, et sa température se comptait en dizaines de milliers de milliards de degrés. Cependant, personne ne peut décrire avec certitude une naissance de l'univers. Et voilà qui me semble, à mon avis, largement aussi spectaculaire qu'une explosion. Nous n'avons peut-être pas d'origine.
Ah, Aïe, Jean-Philippe Luzon, si on n'a pas d'origine, pas de Big Bang primordial, comment on fait? Vous voulez réagir à cette exoconférence d'Alexandre Astier?
Déjà, c'est un très beau texte parce qu'on voit qu'avec de l'humour, il arrive quand même à faire passer les idées essentielles. On pourrait passer longtemps, en fait, à décrypter tout ce qu'il nous dit, mais il y a déjà une réflexion sur la taille. Est-ce que l'univers est fini, infini? Et puis, il insiste vraiment...
Et puis, on ne le voyait pas grincer, mais quand il montre la taille de l'univers, c'est un petit point.
C'est un tout petit point, voilà. On invite tout le monde à aller voir ce spectacle, quoi, s'il joue encore. Allez voir, c'est très bien. Et puis surtout, il insiste sur la nécessité d'avoir des observations. Il vous dit, avant, on avait... et donc on va remonter. Donc comment est-ce qu'on va faire pour remonter? Et c'est là qu'on va comprendre peut-être un petit peu les deux ressorts qui permettent de construire une représentation de l'univers. Il nous faut déjà un cadre théorique. Et ce cadre théorique, on va le comparer à des observations qui sont suffisamment proches. On va essayer d'avoir des observations de plus en plus anciennes, de remonter le plus possible.
Et parce que plus on remonte loin dans le temps, plus on va loin dans l'univers, enfin, les deux vont ensemble.
Puisque la vitesse de la lumière est finie, plus un objet est lointain, plus il nous faut de temps pour que sa lumière nous parvienne. Et donc, on va essayer de collecter des informations de plus en plus loin. Bien sûr, plus on essaye de voir loin, plus un objet, moins un objet va être lumineux, plus ça va être difficile en fait, de faire des observations.
C'est pour ça qu'on utilise aussi certain type de supernova qui en fait émettent pratiquement des chandelles standards et qui émettent une quantité, un flash de lumière absolument gigantesque, mais assez reproductible. C'est-à-dire que toutes les supernovas de ce type-là, à peu de choses près, on va dire, émettent la même lumière. Donc on peut les voir de plus en plus lointaines dans le passé et on peut donc comme ça reconstruire l'évolution de l'univers et sa géométrie. Donc ça, voilà. Jean-Philippe l'expliquera
mieux que moi. Et donc on peut remonter le temps jusqu'au Big Bang, quand on dit Big Bang.
Alors voilà, non, on peut pas remonter jusqu'au Big Bang. Donc on va faire ça et puis à un moment vous n'avez plus d'observations. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez laisser parler votre théorie, donc vos mathématiques et ce modèle qui a été calibré sur les observations, vous l'extrapolez le plus possible. Et ça, c'est toujours ce qu'on doit faire en science, c'est avoir un modèle de référence et ensuite avec un domaine de validité et ensuite l'étendre bien au-delà pour voir ce qu'il nous dit sur la nature. Et quand on extrapole ce modèle, on arrive à un moment où on a ce qu'on appelle une singularité. L'espace et le temps ne font plus sens, ils disparaissent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les gens se sont tirés les cheveux sur ce genre de problème dès les années 30. Eddington disait que c'était complètement répugnant d'arriver à une telle conclusion. Et peut-être un des grands penseurs de la cosmologie, qui est Georges Lemaître, écrit très clairement, il y a attention, nous sommes en train d'extrapoler l'univers à des domaines d'énergie pour lesquels nous n'avons aucun contrôle. Il faudra probablement décrire la gravitation de façon quantique. Et en fait, cette singularité, ce Big Bang, entre guillemets, ce n'est pas une caractéristique de l'univers, c'est une caractéristique du modèle qui décrit l'univers. Et donc, on est en train de dire, eh bien, c'est la validité de notre construction qui ne marche plus. Et actuellement, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des extensions de ce modèle, en particulier dans le cadre des théories de gravité quantique, la théorie des corps, la théorie quantique à boucle, et qui, dans chacune de ces théories qui sont encore spéculatives, arrivent à créer des scénarios. Donc là, on ne peut pas dire si l'univers est comme ça, mais on veut dire, voilà, dans ce que nous connaissons de la physique et les extrapolations que nous avons, voilà les scénarios possibles pour finalement donner une explication, prolonger l'histoire de l'univers au-delà de ce mur qui serait le Big Bang, mais qui n'est pas quelque chose de physique, mais qui est une limite de ce. C'est le moment où la théorie se tait, finalement.
Voilà, c'est la limite de nos connaissances. C'est quand on dit la théorie du Big Bang, c'est un modèle, ce sont des modèles et ce sont des théories. C'est au pluriel qu'il faut les prendre aussi.
Donc c'est un ensemble de théories, il y a plusieurs possibilités. Alors c'est vrai que quand vous êtes proche, eh bien, vous n'avez qu'une seule explication. Et ensuite, on va à plus haute énergie, on va avoir des choix parce qu'on a des phénomènes qui peuvent se passer ou pas se passer suivant nos extrapolations des théories de la physique des autres énergies. Et ça, s'il y a quelque chose que nos auditeurs doivent se rappeler, c'est premièrement, et c'est vrai pour la cosmologie, mais c'est vrai pour toute discipline scientifique, ne pas confondre le phénomène et la description du phénomène. Et souvent, les physiciens parlent de la description du phénomène. Et puis, c'est pour ça que va pouvoir s'établir un dialogue avec le philosophe. Si je vous parle de la vie, si je vous parle de l'univers, eh bien, on va parler de choses. Il va falloir donner un sens à ces choses-là. Et donc, le dialogue avec la philosophie est important. Marco en a donné un exemple. C'est vrai que les supernovas, il nous dit, voilà, les Chinois, mais il y a eu ces textes de Galilée sur le fait qu'on voit une supernova. Si on pense que l'univers est immuable et qu'on voit quelque chose qui change, ça remet en cause toutes vos conceptions philosophiques. Donc la science repose sur la notion de cette démarche scientifique, avec un certain nombre d'hypothèses, avec une méthodologie, avec la nécessité d'avoir des observations, des expériences, et elle arrive à des constats. Et ces constats, il faut ensuite les partager avec des philosophes pour pouvoir donner un sens au monde, et puis avec nos concitoyens, parce que c'est un savoir qui leur appartient.
Autour de la question comment comprendre et penser ensemble donc l'univers, je propose de continuer de nous interroger, toujours avec humour, et avec les Monty Python sur RFI et leur Galaxy Song, morceau d'anthologie.
Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour, that's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned, a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day in an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe.
Galaxy Song des Monty Python sur RFI, c'est votre choix, Jean-Philippe Usan. Effectivement, ça fait sourire, rêver et réfléchir, mine de rien.
C'est les Monty Python, c'est génial. Donc, le sens de la vie, il faut le voir, puis le reste aussi. Et puis, ce qui est bien, c'est, bon, voilà, c'est en anglais là, mais allez regarder le texte et vous verrez que la description qui est faite est vraiment une vulgarisation extraordinaire. Le mouvement de la Terre, le mouvement du Soleil dans la galaxie, de nos galaxies. Et donc, finalement, c'est ça aussi qui est important parce qu'on écrit des livres comme ça sur des choses qui sont très techniques. C'est du savoir qui va aussi diffuser dans le grand public, qui va aussi pouvoir inspirer certains artistes pour faire des choses drôles et pour
vous
faire des
œuvres
d'art.
Vous aimez bien travailler en lien art et science, et voilà. C'est vrai que les artistes font parfois bien passer la science autour de la question comment comprendre les phénomènes les plus spectaculaires de la galaxie. Arrêt maintenant sur l'image peut-être la plus cataclysmique de l'univers, celle de l'explosion d'une supernova dans notre galaxie, mais aussi ailleurs. Extrait de la série Infiniment Grand sur le site d'Univers Science, Voyage interstellaire, dans la voix de l'acteur Hugues Massigna.
3, 2, 1. À cheval entre les constellations australes de Dorado et Mensa, nous nous attardons dans le grand nuage de Magellan. Un corps fantôme de dragon, à la gueule grande ouverte, menace géante et supergéante rouge. Ça finira mal, comme pour N132D, cette grande étoile toujours plus grosse et plus lumineuse. On la regardait tous avec envie, et puis un jour, pan, elle explosa. Un spectacle grandiose, du jamais vu, onde de choc phénoménale, des atomes en roue libre partout. Expulsion de gaz et tout le tremblement, ça ne vous dit rien? Voyons, c'était il y a 3000 ans. Finalement, dans le grand nuage de Magellan, on naît et on meurt comme dans la Voie lactée.
Les étoiles vivent et meurent dans toutes les galaxies, et c'est carrément, c'est très très spectaculaire. La mort, hein, c'est ça, hein, c'est l'explosion d'une étoile massive, c'est ça une supernova, Marco Zito?
Oui, parce que en fait, les hommes ont d'abord regardé le Soleil. En fait, les autres étoiles qu'on voit, on pensait, c'est des choses qui sont immuables, éternelles. Mais en fait, c'est pas vrai. Donc, on a parlé tout à l'heure d'une explosion qu'on a vue au Moyen Âge, donc et d'autres qui ensuite vues par Kepler, par exemple, donc qui ont prouvé que les ciels étaient les lieux aussi des changements, comme la Terre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que certaines étoiles très massives, donc autour d'une dizaine. moyenne des fois la masse du Soleil.
Très, très, très massive.
Très
hein,
massive,
oui, c'est ça.
Mais ça existe. Ça existe, et donc, ce qu'on appelle des supergéantes. Et donc, à la fin, ils leur connaissent, en fait, toute une évolution. Et il arrive un moment où, en fait, les cœurs de l'étoile n'arrivent plus à soutenir toute cette pression des matières donc, qui pèse sur lui. Et donc, il y a d'abord une implosion et ensuite un espèce de rebond et avec plein d'autres phénomènes que je n'aurai pas le temps de décrire, qu'on ne sait peut-être même pas encore trop décrire.
Et, oui, c'est ça, qui pose plein de questions aussi.
Dans lesquelles, oui, absolument. Dans lesquelles, en fait, bon, d'abord, il y a effectivement mort d'une étoile, mais il y a aussi création, parce qu'il y a création de plein d'éléments lourds. Donc, par exemple, tous les fers nous avons dans notre sang, dans l'hémoglobine, ils viennent de l'explosion d'une supernova.
Donc, nous sommes vraiment des poussières d'étoiles. Notre sang vient d'une supernova, de explosion d'une supernova.
Absolument. Donc, on voit bien qu'on est tous venus d'ailleurs, en fait. Donc, donc vous voyez que la mort d'une étoile, c'est la vie de plein d'autres organismes, et ainsi de suite, dans une chaîne très, 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 très compliquée et très fascinante.
Et il y a beaucoup de choses, justement, qui fascinent le physicien des particules que vous êtes dans les supernovas, parce que il y a aussi le fait que, quand elle meurt, elle peut devenir supernova, mais elle peut aussi devenir autre chose, hein, la super étoile.
Oui,
géante.
En fait, on peut dire que les étoiles massives peuvent devenir supernova, donc exploser, ou bien il peut y avoir aussi laisser derrière elle donc des astres très lourds qu'on appelle étoiles à neutrons, donc sur lesquels on pourra revenir dans une autre émission.
Absolument.
Parce que c'est des objets fascinants. Mais ils peuvent aussi y avoir en fait quelque chose qui une espèce d'implosion qui s'arrête plus et qui se termine par un trou noir, donc une espèce de coin dans l'espace et le temps dans lesquels plus rien ne peut sortir. Et l'étoile, on peut dire, hésite entre ces deux destins très différents pendant un dixième de seconde, alors qu'elle a vécu pendant 10 millions d'années. Donc, voilà,
c'est philosophique, c'est métaphysique.
Oui, on est dans Hamlet, tout à fait dans
c'est
Hamlet.
C'est ça, l'étoile, elle hésite entre exploser et donner la vie ou devenir trou noir et tout absorber.
Absolument. Mais je peux dire, pour terminer sur un autre ton, que moi, physicien des particules, ce qui m'intéresse, c'est aussi le fait que la lumière qu'on voit d'une supernova, au moins pour certaines supernovas, n'est qu'un pâle reflet de ce qui se passe. Parce qu'en fait, 99% de l'énergie est importée par un flash, une énorme bouffée de neutrinos. Et donc, justement, dans la galaxie, dans les nuages de Magellan, on a observé l'explosion d'une supernova, donc, qui est arrivée sur Terre en 1987. Et donc, dont on a vu à la fois la lumière et les neutrinos. Et les neutrinos ont été vus en particulier par une expérience au Japon, donc dans une expérience souterraine.
Oui, parce que les neutrinos, on en a parlé hein, déjà dans cette émission, mais ce sont des particules qui traversent tout, qui sont partout, mais qu'on n'arrive pas à attraper, quoi.
Pratiquement pas. Pratiquement pas. Donc
de manière souterraine. Et vous participez à cette traque souterraine des neutrinos.
Absolument. C'est des expériences souterraines pour avoir un écran par rapport aux rayons cosmiques, donc d'autres particules qui pourraient faire des réactions parasites. Et on est obligé de construire des grands détecteurs donc, qui font des dizaines, des milliers de tonnes, voire jusqu'au milliard de tonnes. C'est un grand détecteur qui est au pôle sud, donc qui s'appelle Ice Cube, donc, qui a instrumenté la glace du pôle sud.
Essayer de traquer les neutrinos qui jaillissent d'une explosion de supernova.
Absolument. Et bien d'autres neutrinos encore, parce qu'il y a d'autres processus qui en produisent.
Alors, observatoire sous terre, mais aussi dans l'espace, hein, de nouvelles fenêtres astronomiques s'ouvrent pour explorer. Je sais que vous avez aussi envie de revenir, Marco Zito, sur l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Mais il y a aussi la récente détection des ondes gravitationnelles qui a encore ouvert une nouvelle fenêtre d'observation. À ce sujet, une question pour vous. C'est celle du physicien Thibaut Damour, dont les travaux théoriques sont à l'origine hein, de cette détection des ondes gravitationnelles. Il était lundi notre invité dans ce studio sur RFI. Écoutez sa question. Elle est pour vous, Marco Zito.
Bonjour, Marco Zito. Que pensez-vous que les détections futures des ondes gravitationnelles puissent apporter sur notre connaissance des phénomènes de type supernova ?
Votre réponse, Marco Zito.
Oui, alors en fait, c'est déjà fait en partie parce que donc, des ondes gravitationnelles ont commencé à être observées pour la première fois en 2016. Et en 2017, en fait, on a vu un signal assez spectaculaire d'ondes gravitationnelles, donc une espèce de perturbation dans la géométrie de l'univers qui se propage un peu comme une onde, comme les ondes qui portent notre voix en ce moment. Et donc, on a pu voir deux étoiles à neutrons, donc des astres assez super compacts, qui donc, ont commencé à faire une espèce de balai dans l'espace, l'un autour de l'autre, jusqu'à s'approcher au point de devenir plus qu'un. Et donc, dans les derniers moments
explosion apocalyptique, enfin, je
voilà,
sais pas comment le dire.
Donc, ils ont émis aussi des ondes gravitationnelles, donc, qui ont permis de comprendre que ces types d'événements, en fait, c'est très important parce qu'on parlait tout à l'heure d'éléments lourds. Mmh. Les supernovas expliquent la production d'éléments lourds jusqu'au fer, mais on voit bien d'autres choses, des éléments encore plus lourds, l'or, l'uranium, etc., le plomb. Et ces éléments-là sont produits dans ces types d'explosions d'étoiles à neutrons. Et
c'est-à-dire que le secret de l'or, de tous les métaux, de tout ce qui fait la matière vivante, se niche évidemment dans ces étoiles-là.
Absolument. Absolument. Et comme c'est des phénomènes extrêmement rares, il y a des événements comme ça, il y en a très 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 peu dans une galaxie, bah ça explique pourquoi l'or est aussi rare sur Terre et aussi prisé.
Voilà. On continue de s'interroger sur l'or, sur la vie, la mort et le destin des étoiles, mais en musique sur RFI avec Isaac Delusion et le morceau s'appelle, il vous est dédié, Mario Zito, Supernova. Supernova version électropop, Isaac Delusion sur RFI, autour de la question comment comprendre les phénomènes les plus spectaculaires de l'univers, les supernovas, titre de votre livre apparaître, Marco Zico, et le Big Bang avec vous, carrément, Jean-Philippe Usan. Big Bang, c'est le titre de l'ouvrage que vous venez de publier, dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner, amis auditeurs, si vous nous le demandez par mail sur notre page Facebook. Et maintenant, c'est votre tour, c'est à vous, Jean-Philippe Usan, de passer à la question du physicien Thibaut Damour.
Bonjour Jean-Philippe, quelle est ta position sur ce qu'il y a, comme on dit, avant le Big Bang, c'est-à-dire est-ce qu'il y a disparition de l'espace et il faut avoir une description purement abstraite de l'espace, ou pourrait-il y avoir un pré-Big Bang, c'est-à-dire un espace en contraction qui rebondit pour créer le Big Bang ? Qu'en penses-tu ?
Qu'en pensez-vous, Jean-Philippe? Chez Hugo, notre réalisateur essaye de bruiter un peu ce Big Bang. Ceci dit, dans l'espace, il n'y a pas. Hein,
Bruitons le Big Bang. Ah, mais jusqu'à 370 000 ans après le Big Bang, il y a des ondes sonores qui se propagent dans l'univers. Ce n'est qu'après qu'il n'y a plus de son.
D'accord, hein. Donc on peut essayer. Ah,
on peut s'amuser.
Okay. Enfin, ceci dit, dans l'univers, on n'entend pas. Hein.
C'est ça. Tant que c'est vide, pas de son. Oui, bah c'est une très belle question de Thibaut Damour, parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, donc on extrapole nos théories, et en particulier l'autre théorie de la relativité générale, jusqu'à des énergies qui sont de plus en plus grandes. Et donc, il y a un moment où on a cette singularité. Il faut remplacer par quelque chose.
Donc, est-ce qu'il y a avant ce qu'on appelle Big Bang.
Voilà, donc c'est un moment où vous allez devoir faire une description qui va se baser sur une nouvelle théorie de la gravitation et une théorie de la gravitation quantique. Et suivant la théorie que vous allez choisir, eh bien, il va y avoir des structures différentes qui vont apparaître. Alors, par exemple, dans le cas de la théorie des cordes, on va avoir ce qu'on appelle un rebond, donc une phase où l'univers s'effondre sur lui-même, puis rebondit.
Donc, avant le Big Bang, effet rebond.
Voilà, un effet rebond. Donc, on aurait l'univers qui existerait. Alors, bien sûr, après, toujours la question du pourquoi, mais celle-là, pour l'instant, le physicien ne se la pose pas. Il fait une description.
D'accord.
L'univers
serait
en train de s'effondrer sur lui-même, et puis, à un moment, il y a un rebond.
Et ça donne l'univers
comme
une
supernova.
Un peu comme une supernova, et ça donnerait comme un Big Bang. Et donc ce rebond-là, c'est ce qu'on appellerait le Big Bang. Donc, vous voyez, on décrit, au lieu d'avoir un mur, eh bien, on décrit quelque chose qu'il y a avant et un rebond. Premier type d'explication. On pourrait se dire, mais en fait, c'est simplement même les notions mathématiques qui décrivent ce qu'on appelle l'espace et le temps qui vont être radicalement différentes, avec des analogies avec ce qu'on fait en particulier en physique de la matière condensée, de ce qu'on appelle une transition de phase. Le fait que, par exemple, si je vous dis, voilà, il y a de l'océan, d'où vient l'eau? Eh bien, vous pouvez me dire, bah, peut-être que l'eau, avant, elle était sous forme de vapeur, donc dès que c'était la même eau, mais
elle a été transformée.
Et qu'elle a été transformée. Peut-être que ce que nous, on appelle espace-temps, était une structure complètement différente. Ce qu'on appelle les structures pré-géométriques. Donc, en fait, tout ça, ça décrit un espace des possibles.
Et tout ça, ce sont des hypothèses.
Tout ça, ce sont des hypothèses de construction, des scénarios. Et à partir de ça, on fait des modèles cosmologiques. Il y a aussi, pour faire un peu rêver nos auditeurs, des modèles dans lesquels l'univers a des dimensions supplémentaires. Donc, l'univers est une sorte de membrane dans un espace qui est beaucoup plus grand. Et quand ces deux membranes se rentrent en collision, ça peut faire, à l'intérieur de cette membrane, l'équivalent d'un Big Bang. Donc on voit qu'on a plein de possibilités, on peut explorer. Et c'est là où, donc, la question de Thibaut, de savoir, est-ce qu'il y en a un dans lequel je crois plus que les autres? Ma réponse est non. Parce que,
Vous explorez, vous étudiez
J'ai exploré un certain nombre de modèles. Depuis 2-3 ans, avec un de mes collègues japonais qui s'appelle Shinji Mukoyama, à l'université de Kyoto, on a un modèle dans lequel la notion de temps lui-même n'apparaît que localement dans des sortes de bulles. Et en fait, on voit que ce qu'on appellerait le Big Bang, c'est finalement le moment où le temps prend une certaine direction. Et peut-être qu'ailleurs, il prend une autre direction. Voilà.
C'est complètement délirant, ça fait rêver. Sauf que vous, ce sont des hypothèses sur lesquelles vous travaillez. Mais c'est un peu compliqué pour le grand public entre spéculation. Est-ce qu'on... Vous ne dites pas n'importe quoi, vous dites
non.
À partir d'hypothèses, de théories, de possibilités que vous allez explorer.
Et c'est exactement ça. Et c'est pour moi la difficulté de la vulgarisation. Donc souvent, moi, je suis assez réticent pour parler de toutes ces spéculations. Parce qu'entre techniciens, on sait ce qu'elles valent. On sait celles qui reposent sur des hypothèses crédibles, celles qui sont beaucoup plus poussées. Parce qu'entre nous, on se titille un petit peu les uns les autres. C'est le but de la recherche. Donc dans la recherche, il y a deux choses. Il y a la production d'un savoir qui est validé par toute une communauté, qu'on peut transmettre à nos concitoyens, l'univers est en expansion, d'où viennent les noyaux atomiques, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans certains types de phénomènes astrophysiques, comment les galaxies se forment. Voilà, là, il y a des aspects théoriques.
Ça, c'est du savoir, des connaissances.
On a de l'observation. Il y a bien sûr des zones d'ombre avec des choses sur lesquelles on n'est pas complètement sûr. Mais il y a une communauté qui s'accorde sur ces faits-là. Quand je parle de ça, je ne suis rien. Je suis représentant d'une communauté scientifique dans laquelle je travaille et où je participe au débat. Et puis ensuite, on a les phases exploratoires qui sont nécessaires parce qu'il faut penser le futur, les futures expériences. Voilà, la question précédente, est-ce que les ondes gravitationnelles vont permettre de nous apprendre quelque chose sur les étoiles à neutrons, mais aussi peut-être... Eh bien, l'univers n'est plus transparent, opaque aux ondes gravitationnelles. Peut-être qu'on peut se rapprocher plus près du Big Bang et avoir plus d'informations. Donc, ce côté-là exploratoire, prospectif, fait aussi partie de notre recherche. Sauf qu'il est construit sur du sable beaucoup plus mouvant, puisque on ne connaît pas.
Il n'y a pas de certitude. Ce sont des suppositions, des hypothèses.
C'est ça.
Et qu'il faut bien faire la différence.
Voilà. Et si on s'exprime là-dessus, si je vous dis, je crois dans les univers à rebond ou je crois dans les univers multiples, là, je n'exprime pas une certitude. études. J'ai pris le fait que, étant donné toute ma connaissance, je dis qu'il est peut-être plus crédible d'aller vers ce type d'explication. Et je crois que c'est ça aussi qu'on doit faire passer au public, c'est avec le savoir, le niveau de crédibilité de ce savoir.
Qu'est-ce qui est de l'ordre du mythe, de la croyance, et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'hypothèse à explorer, à vérifier. À ce sujet, je propose justement un nouvel éclairage en forme de question, soulevé par l'écrivain Alexandre Lacroix, qui dirige la rédaction de Philosophie Magazine.
Une des choses qui me frappe, si on s'intéresse à l'univers très ancien, à l'univers des origines, c'est-à-dire en fait à ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire cette trace électromagnétique que l'on a détectée dans toutes les directions à partir de la Terre et qui montre que l'univers, il y a environ 13,7 milliards d'années, était très dense, très chaud, une sorte de soupe. Une chose qui me frappe, c'est l'analogie immense qu'il y a entre cet univers très ancien et pas du tout le récit de la Genèse, mais bien le récit d'Hésiode, c'est-à-dire cette idée d'un chaos qui aurait précédé l'organisation et la complexification de la matière. C'est-à-dire, dans le mythe grec, et dans les mythes grecs, et cette idée que le chaos était là avant le ciel et la terre, il me semble qu'il y a là des intuitions très profondes, ou des homologies, des analogies possibles, avec certaines des découvertes les plus récentes. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le fond cosmologique diffus est le recyclage, en quelque sorte, dans le discours de l'astrophysique du mythe du chaos, ou est-ce que l'un fait écho à l'autre?
Le mythe du chaos, est-ce que ça fait écho, Jean-Philippe Puisan?
Ça peut faire et ne pas faire, ça dépend comment on voit les choses. Je dirais que c'est vrai, donc il nous parle de ce fond diffus cosmologique, donc c'est un état dans lequel l'univers est rempli de protons, de noyaux d'hélium, et puis de la lumière, et tout ça interagit fortement ensemble. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, un état qui est extrêmement chaud. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de planète. Il fait trop chaud pour que ces objets-là puissent exister. Alors ce qu'on a compris, c'est que en partant de cet état-là, en laissant la physique à l'œuvre, la gravitation dans un premier temps, puis la physique atomique, on va pouvoir créer des structures. Pour autant, ce fond diffus cosmologique, il est assez simple. C'est-à-dire que la physique qui est à l'œuvre, c'est une physique qu'on comprend très très bien. Il a des structures qu'on a été capable de cartographier, en particulier avec le satellite WMAP des Américains et le satellite Planck, dans lequel la communauté française s'est énormément impliquée. Et ces structures qui ont été prédites, ont été observées, elles sont en accord avec la théorie. Et on sait que ce sont ces structures-là qui portent en germe l'origine des galaxies qui vont se former plus tard. Et en fait, on pourrait dire, mais il faudrait vraiment réfléchir un peu plus pour savoir si je suis d'accord avec moi-même, mais j'extrapole et j'improvise. On pourrait dire que finalement, il y avait beaucoup d'ordre à ce moment-là.
Et que, en fait, c'était pas si chaotique que
avec,
ça.
Oui, c'est ça.
Et avec, sous-primordial.
C'est ça. Et avec la complexification, on va avoir des champs gravitationnels plus importants, on va rentrer dans des régimes beaucoup plus non linéaires, beaucoup plus difficiles à prédire.
Donc la complexité, elle est peut-être venue au fur et à mesure.
Donc on a quelque part de l'ordre qui se crée localement, mais en fait, quand on regarde nos théories scientifiques, il est facile de décrire l'univers à ces époques-là. Si je veux décrire ce qui se forme beaucoup plus tard, il faut que je fasse des simulations numériques beaucoup plus complexes. Et en fait, on a beaucoup plus de mal à décrire ces phases de grande complexité que les phases primordiales qui finalement sont beaucoup plus simples à décrire.
Marco Zito.
Oui, non, je voulais revenir juste sur la pensée grecque, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a eu des intuitions très profondes, parce qu'on doit aux Grecs quand même la première théorie du type atomique. Donc l'atomisme grec, c'est quand même une intuition qui a été... On a passé presque 2000 ans de recherches avant de pouvoir la confirmer, mais c'est quelque chose d'absolument phénoménal.
Il y a des intuitions dans les mythes, oui.
Des intuitions dans les mythes et dans la philosophie des débuts. Parce que moi, je dirais aussi qu'on doit à la pensée grecque aussi un penseur comme Héraclite, qui est le premier à penser vraiment quel est le moteur du devenir. On voit le monde qui est un devenir. Quel est le moteur? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est le premier à avoir réfléchi à la contradiction, c'est-à-dire la tension entre des éléments opposés qui, comme moteur de l'histoire et moteur aussi du devenir à la fois individuel et collectif. Et voilà, c'est quelque chose à nouveau très profond qu'il faudrait creuser.
C'est-à-dire, Marco Zito aussi, que vous aussi, vous faites, enfin, pas feu de tout bois, mais c'est-à-dire, Jean-Philippe Puisan le dit aussi, on est quand même assis sur les épaules des anciens,
des géants,
vraiment. Et que finalement, on avance avec toute cette histoire, même si aujourd'hui, on a des outils technologiques, on parlait souterrains, des grands instruments, enfin, même si aujourd'hui, ça va très vite, ça s'accélère, on se base quand même, vous dites même dans cet ouvrage que, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, rappelons-le, l'astrologie à l'époque a fait avancer l'astronomie.
Ah oui, absolument. Je ne voudrais pas être mal interprété.
Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, on le dit bien.
Les astronomes chinois faisaient des observations très précises du ciel qu'ils ont consignées à l'écrit pendant presque 2000 ans, justement parce qu'ils pensaient que les ciels, ce qui se passait dans les ciels, allait donner des présages sur ce qui allait se passer sur Terre. Bien sûr, c'était pas vrai. Alors, il y a des liens entre
voilà,
ce qui se passe.
Ça ne va pas nous donner l'horoscope, mais il y a quelque chose à tirer quand même de cette intuition-là.
Absolument, parce que bon, on a déjà vu, on l'a dit tout à l'heure, que la matière dont nous sommes faits a été produite dans une étoile, donc on voit bien qu'il y a des liens entre nous-mêmes et quelque chose qui se passe dans le cosmos très lointain, mais aussi on peut voir ces liens tout le long de l'évolution de la vie sur Terre. Peut-être que certaines grandes catastrophes dans lesquelles il y a eu des extinctions des masses, on en compte 5 donc depuis qu'on connaît la vie sur Terre, et peut-être qu'une ou deux de ces grandes extinctions des masses sont dues à une explosion des supernovas proches.
Voilà. Donc vie et mort sur Terre dépendent évidemment de ce qui se passe ailleurs dans le cosmos et dans tout l'univers. Autour de la question comment comprendre notre vertigineux cosmos, on continue de s'interroger avec Fisbac sur RFI. Invisible, désintégration de l'univers. Désintégration de l'univers avec Fisbac sur RFI. Autour de la question comment comprendre justement l'univers et ses phénomènes les plus spectaculaires, en compagnie des physiciens Jean-Philippe Uzan et Marco Zito. Alors nous découvrons beaucoup de choses, et notamment l'étendue aujourd'hui de nos connaissances qui avancent vite grâce aux outils technologiques, mais aussi l'étendue de notre ignorance. Est-ce que les deux ne vont pas ensemble, Jean-Philippe Uzan? C'est-à-dire, au fond, plus on en sait, plus on en comprend, plus on en découvre, et plus on découvre aussi qu'on n'est pas grand-chose et qu'on ne sait pas grand-chose.
Tout à fait. Alors je pense que là, on pourrait aussi en discuter pendant des ans, mais il y a vraiment un point important qu'il faut comprendre, c'est que la science, bien sûr, elle nous dit des choses sur le monde, on fait des théories, mais à partir du moment où on a des théories qui décrivent le monde, ça nous donne aussi des outils pour plus questionner le monde. Le jour où vous comprenez l'outil, vous faites des télescopes, et vous faites des microscopes, et puis ensuite des microscopes électroniques, des accélérateurs de particules. Donc vous allez aller interroger l'univers, le monde autour de vous, avec des outils qui sont des prothèses, des extensions de vos sens. Et là, vous allez découvrir une nouvelle réalité qui n'est pas la réalité manifeste de celle qui est donnée par nos sens. Vous allez révéler de nouveaux mystères, de nouvelles choses à expliquer. Et la seule chose que vous allez comprendre, comme vous allez faire une explication, que cette explication, elle doit se baser sur une formulation, elle doit dire il existe des neutrons, des protons, des éléments de base. Elle se base sur une ontologie. Cette ontologie n'est pas expliquée par la théorie scientifique. Donc à une théorie scientifique, on pourra pourra toujours lui poser la question, pourquoi cette structure ? Et donc essayer d'aller un pas plus loin. Et je crois que c'est le philosophe Jonas Kohn du 19e siècle qui disait exactement ça. Il disait, tout expliqué. Dans le mot comprendre, il y a le mot prendre. Ce que l'on peut prendre, c'est les choses dont on saisit d'ailleurs, c'est encore comprendre, les limites. Et on pourra toujours se poser la question, qu'est-ce qu'il y a après ces limites ? Donc la science ne produit qu'un savoir limité, circonscrit, et c'est pour ça qu'il est important qu'elle ait une théorie aille toujours avec son domaine de validité. Et il dit quelque chose de très beau, il dit, il y a toujours cet infini de la question pourquoi ça ? Et en fait, on explique une quantité de choses finies et notre imagination est infinie à questionner la chose que l'on a expliquée. Et ça, c'est un des moteurs de la connaissance.
D'autant que votre domaine, hein, Marco Zito, que ce soit l'infiniment petit, l'infiniment grand, on est toujours dans l'infini, qu'il faut bien saisir et comprendre.
Absolument, mais là, je voulais rebondir sur l'infini de notre ignorance. Parce qu'en fait, on croyait tout comprendre de la matière. Et justement, en étudiant les supernovas, et en fait, les galaxies d'abord, et ensuite avec les supernovas, on s'est rendu compte qu'il y a dans l'univers beaucoup plus qu'on pensait dans notre science, on pourrait dire dans notre philosophie. Et en particulier, on s'est rendu compte d'abord qu'il y a un élément mystérieux qui remplit nos galaxies auquel on ne connaît pratiquement rien.
La mystérieuse matière noire.
Mais
existe-t-elle ou pas? On ne sait toujours pas.
Mais rebelote avec les supernovas, et donc depuis un peu moins de 20 ans, on sait qu'il y a peut-être une autre matière encore plus mystérieuse, celle-là, qui s'appelle énergie noire, et les deux ensemble représenteraient 96% de ce qui contient l'univers.
Là, c'est vraiment notre ignorance abyssale.
Abyssale, voilà. On croit tout comprendre, mais on comprend tout de presque rien.
Sur quoi portent vos recherches, justement, dans cet infiniment petit? Sur quoi portez-vous votre regard en ce moment, Marco Zito?
Oui, bien, moi je travaille à la construction des grands détecteurs souterrains des neutrinos, en particulier les détecteurs qui seront utilisés dans la prochaine génération d'expériences, et donc en particulier il y en a deux. Il y en a un aux États-Unis qui s'appelle Dune, et un au Japon qui s'appelle Hyper-Kamiokande, et donc c'est des projets futurs donc pour la prochaine décennie, c'est des œuvres un peu cyclopiques.
Énormes, gigantesques pour détecter ces fameux neutrinos.
Oui, mais finalement on a toujours fait ça, parce que quand on regarde dans l'Antiquité, on avait des grands observatoires astronomiques donc, qui étaient aussi mégalithiques. Donc,
que voilà, ce soit pour aller dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, il faut des grands instruments.
Absolument. Et il faut consacrer les moyens nécessaires parce que ça fait avancer nos connaissances.
Jean-Philippe Usan, sur quoi portent vos recherches, vos travaux en ce moment?
Bon, alors, je travaille toujours en même temps sur plusieurs choses, mais je vais juste vous parler d'une chose qui me tient un petit peu à cœur, que je fais avec quatre jeunes chercheurs là, à l'Institut d'astrophysique de Paris, et où on a eu un article qui est sorti au mois de février, où en fait, vous avez tous ces phénomènes qui produisent des ondes gravitationnelles dont on a parlé tout à l'heure, mais en fait, dans une galaxie, il va y avoir beaucoup de systèmes qui ont produit, il y a énormément de ces ondes qui ont une amplitude trop faible pour être détectées, mais ce qui fait qu'ici, on est baigné dans un fond d'ondes gravitationnelles.
Là, maintenant, ici, quand on
partout,
se parle.
Ce qui fluctue. On n'est pas capable de détecter, qu'on sera peut-être capable de détecter dans 10 ans ou dans 20 ans. Et donc, on a fait la première prédiction des propriétés de ce fond stochastique d'ondes gravitationnelles. Et on est en train de montrer que ça nous permet d'apprendre énormément de choses sur l'évolution des galaxies qui possèdent ces systèmes d'ondes ces sources d'ondes gravitationnelles, et en particulier les populations de trous noirs nous apprennent des choses sur le taux de formation d'étoiles dans la galaxie à ses origines. Donc plein de choses qui sont des quantités astrophysiques qui sont assez mal estimées pour l'instant, et de montrer comment cette astrophysique gravitationnelle va être capable de nous apporter des informations sur l'astrophysique inaccessible avec l'optique.
Merci infiniment d'être venu en direct partager toutes ces pistes de recherche et d'interrogation sur l'univers, notre univers. Je rappelle le titre de vos ouvrages respectifs, donc Jean-Philippe Usan, Le Big Bang, aux éditions Flammarion, dont nous avons encore un exemplaire à vous faire gagner, amis auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. Et puis Supernova, l'éclat de l'étoile disparue, Marco Zito, apparaître tout début novembre aux éditions Belin. Merci et vous revenez quand vous voulez.
Merci beaucoup.
Merci.
Autour Tour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver lundi avec Hugo Violas à la réalisation et Sophia Bédard en coulisses. Juste un petit au revoir à notre précieuse Caroline Fillette qui nous quitte pour une formation et pour quelques mois. À très vite sur nos ondes, Caroline. Amis auditeurs, merci de votre curiosité. Le journal dans quelques instants sur RFI.